des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 8 janvier dernier, le président sortant des États-Unis a été banni de Twitter, où il totalise 88 millions d'abonnés, puis de Facebook, 35 millions d'abonnés, et d'Instagram pour cause de risque de nouvelles incitations à la violence, et ce jusqu'à la fin de la transition du pouvoir la semaine qui vient. Mark Zuckerberg a personnellement annoncé dans un post la décision prise de manière à ce que Trump ne puisse plus, je cite, « justifier plutôt que condamner les actes de ses supporters au Capitole ». Dans la foulée, Snapchat, TikTok, Twitch, Microsoft, YouTube et Reddit ont également suspendu leurs services au président. Google et Apple, de leur côté, ont retiré de leurs applications la plateforme Parler, censée servir de Twitter alternatif à l'extrême droite, et dont le compte a aussi été fermé par Amazon. Sitôt connue, la décision des réseaux sociaux a suscité des commentaires plus qu'alarmistes sur l'ensemble de la planète. La régulation des géants du numérique ne peut pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même, a ainsi commenté Bruno Le Maire sur Inter, tandis que le commissaire européen au numérique Thierry Breton comparait cette décision à un 11 septembre de l'espace informationnel. Pour la première fois en tout cas, pour préserver la démocratie, un président en exercice voit sa liberté d'expression réduite par les réseaux sociaux. Quelle situation cela crée-t-il? Quelle perspective est-ce que cela ouvre? C'est ce sur quoi nous allons essayer de réfléchir aujourd'hui. Avec pour en parler Asma Mala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à Sciences Po, spécialiste des enjeux politiques de l'économie des plateformes numériques.
C'est ça.
Tariq Krim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des pionniers du web français, vous êtes fondateur du site NetVibes, Joli Clou aussi, et de la plateforme Politis.one, et vous avez été vice-président du Conseil national du numérique, et vous êtes déjà venu dans cette émission. Bernard Benamou, enfin bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique et vous avez été conseiller de la délégation française à l'ONU sur la régularisation d'Internet. Alors, le bannissement de Trump. D'abord, il faut essayer de peut-être commencer par replacer cette décision dans l'ensemble de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. En fait, un certain nombre d'entreprises ont annoncé leur prise de distance vis-à-vis non seulement de Trump mais de toute l'organisation trumpiste et non des moindres, hein, AT&T, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs, BlackRock, Bank America, Wells Fargo, Ford, Disney, American Airlines, BP, UPS, General Motors, etc. Tous ont annoncé la suspension des versements des fonds électoraux pour Trump. Il faut savoir qu'aux États-Unis, toutes ces entreprises financent à peu près à égalité l'ensemble des deux camps, en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être la manière dont ils l'ont dit. Hein. La Chambre du commerce américaine a annoncé que les avocats qui ont soutenu les efforts de Trump pour discréditer les élections ne recevraient plus de soutien financier. Le patron de Blackstone a annoncé la suspension des contributions. Coca-Cola a fait une déclaration disant « Les événements du Capitole resteront dans les mémoires et pèseront dans les décisions de nos contributions futures. » Disney a dit « Le siège du Capitole est un assaut direct contre l'un des piliers majeurs de notre pays, la transition pacifique du pouvoir. » La New York State Bar Association a annoncé l'ouverture d'une enquête contre Rudy Giuliani qui pourrait conduire à son éviction, Giuliani étant l'avocat de Trump. Etc., etc. Je donnerai d'autres détails plus tard. Donc, on a l'impression d'une sorte de la première pensée, c'est Shakespeare, c'est Richard, la fin de Richard III, où le tyran, finalement, est chassé par tout le monde et exécuté comme le sanglier dans les chasses à cour à l'époque élisabéthaine, quoi. On a l'impression d'une espèce de purge. La société américaine essaie de se purger de Trump et de retrouver et pour arriver au happy end du retour de la démocratie. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas qui est-ce qui veut parler.
Je crois que c'est encore plus loin que Shakespeare, c'est de l'ostracisation en fait. Absolument, c'est-à-dire on invisibilise quelque chose qu'on n'a plus envie de voir dans l'espace public ou dans les espaces publics. Et au-delà de la question de Trump, dont on peut discuter, ce bannissement généralisé, cette disparition, cette mise sous silence d'une parole d'un leader politique qui a quand même collecté plus de 70 millions de voix. Alors, peu importe les structures démocratiques américaines, mais pose un vrai sujet démocratique. Et il me semble que ce n'est pas en invisibilisant qu'on résout un problème. Mm-hmm. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai sujet démocratique.
Mm-hmm. Tariq Krim,
Je dirais que
Finalement, ce qu'on voit, on voit trois choses. Déjà, d'une certaine manière, Trump et le Trumpisme est le produit de 10 ans de réseaux sociaux, de ce que j'appelle parfois la radicalisation algorithmique, mais également une forme de communautarisme algorithmique, où finalement, les réseaux et les plateformes et les algorithmes de ces plateformes ont mis en commun des gens qui pensaient la même chose, ou parfois, dans le cas de QAnon, les ont fait découvrir. Donc, il faut dire que des nouveaux mouvements d'extrême droite aux États-Unis, à savoir QAnon ou Boogaloo, sont exclusivement nés de Facebook.
Des réseaux sociaux.
71% des gens qui ont rejoint QAnon l'ont fait suite à une recommandation pour entrer dans un groupe sur Facebook. Et là, d'une certaine manière, il y a trois choses. La première, c'est clairement, dès lors que Biden a été, officiellement élu comme président, donc suite à la réunion au Congrès, évidemment, les entreprises Internet ont besoin de montrer des gages. La deuxième chose, c'est que finalement, et c'est ce qui est un peu rassurant dans tout ça, c'est que le négationnisme, le racisme, les fake news, les vidéos bidons des politiques n'arrêtaient pas les réseaux sociaux. Ce qui arrête les réseaux sociaux, c'est la tentative d'insurrection. Donc on sait maintenant qu'il y a une limite aux États-Unis. Mais je dirais que la troisième chose qui est intéressante, c'est que finalement, cette radicalisation, polarisation, hyperpolarisation de la politique aux États-Unis a rendu la politique elle-même radioactive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous disent toutes ces sociétés, c'est qu'elles donnaient de l'argent aux politiques. Vous connaissez Citizen United, le fait que, en fait, l'argent politique aux États-Unis est très efficace pour faire évoluer les lois. Mais désormais, le terrain est tellement polarisé que c'est devenu radioactif, toxique. Et donc, ce que disent toutes ces marques, c'est pour l'instant, on va s'écarter de tout ça parce qu'il n'y a que des coups à prendre.
Alors, on va revenir sur les réseaux sociaux, mais d'abord, je voudrais rester une seconde sur les entreprises qui ne sont pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire la Deutsche Bank, par exemple, à qui Donald Trump doit, enfin le groupe Trump doit plus de 300 millions de dollars, personnellement garanti par l'actuel président, par Donald Trump, et qui a annoncé ne plus vouloir travailler avec Trump ou la Trump Organisation à l'avenir. Ils ont publié un communiqué disant « Nous croyons qu'une position claire et apolitique, ça va dans le sens de ce que vous dites, Tariq Krim, est dans le meilleur intérêt pour nos clients, pour nos employés, comme pour nos actionnaires et pour les communautés avec lesquelles nous travaillons, etc. » C'est pas seulement les réseaux sociaux. Là, on a l'impression que le libéralisme se réagit en quelque sorte et crée une forme de frontière. Finalement, il y a des choses qui ne doivent pas se produire, et l'insurrection au Capitole en est une.
Oui. Merci.
Bernard Benamou.
De fait, on se rend compte que aujourd'hui, l'écosystème industriel, économique américain découvre un peu tard, après avoir très largement contribué à financer, à faire se développer ces mouvements suprémacistes, radicaux et dangereux, ils découvrent un peu tard, au moment où ça ne leur coûte plus rien. C'est-à-dire que globalement, d'une part, effectivement, on sait très bien que ces questions se posent au moins depuis 4 ans, si ce n'est plus, et de fait, seulement maintenant, parce qu'ils savent qu'il y aura une administration démocrate qui va elle-même avoir certainement, je dirais, une politique totalement différente par rapport justement à l'expression et à la polarisation dont parlait à l'instant Tariq, par définition, je dirais qu'on est face à un mouvement opportuniste, tardif, et malheureusement, le terme clé, justement, ce n'est qu'une suspension. Et on peut très bien retrouver, dans quelques temps, ces sociétés qui refinanceront les comités de politique aux États-Unis, les PAC, comme le dirait un excellent ami, remarquable analyste de ces questions, Lawrence Lessig, qui a eu l'occasion de travailler beaucoup sur la corruption aux États-Unis. C'est tout ce système de financement de la politique américaine qu'il conviendrait de revoir. Et quelque part, ce que font ces sociétés, c'est éviter que ça ne se produise en montrant des gages et en avançant effectivement des titres de bonne foi pour dire, regardez, il n'est pas nécessaire de revenir sur globalement ce qui a été le fonctionnement quasiment séculaire de la politique américaine, à savoir effectivement le financement, l'énorme surfinancement des campagnes américaines par l'industrie.
Alors, aucun de vous trois ne croit à la... c'est pas juste une question naïve, hein. ne croit à la capacité d'autorégulation du système, c'est-à-dire la capacité de la société américaine à la solidité de la société américaine, sa capacité à se...
En fait, si, parce que précisément aux États-Unis, contrairement à l'Europe, la régulation se fait par le marché. Et les idées, y compris les idéologies, ce sont des marketplaces. Ce sont des places de marché bah oui. qui s'autorégule par le marché lui-même, aujourd'hui qui prend la forme de réseaux sociaux plutôt monopolisés par Twitter, Facebook, et qui sont aussi protégés et par le Premier Amendement et par la fameuse section 230. Qui en fait protège le statut de ces plateformes-là en tant qu'hébergeur et non pas qu'en tant qu'éditeur.
Alors on va parler de cette histoire d'hébergeur
et des différences. Et donc simplement pour réagir sur la question. Alors en effet, je suis d'accord avec Bernard Etaric, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde physique, les grandes banques ou les big tech, peu importe, il y a bien un accompagnement de la transition du pouvoir en effet, et donc il y a des actes d'allégeance vis-à-vis d'une nouvelle administration. Cela dit, l'administration Biden, je ne suis pas absolument certaine qu'elle ait un retournement idéologique majeur, parce que d'une part, en effet, les structures de financement et de lobbying, y compris des big tech, vont de toute façon continuer à affluer sur la classe politique. On le voit déjà sur le
et puis ça a commencé avant.
Ça a déjà commencé et ça continue. Donc ils sont déjà prépositionnés. On a vu déjà le mercato politique entre les hauts fonctionnaires, les big tech, etc., où ils sont en train de se positionner tous. Donc je ne suis pas absolument certaine. On verra, mais qu'il y a un changement doctrinal, il y aura un changement de style en revanche.
Je suis pas tout à fait d'accord sur la question de la régulation. On l'a vu justement après la crise de 2008. On s'est bien rendu compte que la dérégulation du système des banques, et notamment le fait que les banques de détail, les banques d'affaires étaient, qu'on avait séparées dans les années 70-80 et qu'on a ensuite recombinées, a nous amené à une catastrophe financière. Et donc, malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que dans le numérique, finalement, cette concentration des pouvoirs, c'est quand même dingue d'y penser que vous pouvez être sur votre chaise, tapoter un message, n'importe lequel, appuyer sur un bouton et instantanément être repris dans 90 millions d'écrans, et en fait un milliard d'écrans, parce que si vous êtes le président, vous avez accès à tout, vous avez cette liberté de parole, cette amplification algorithmique, parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la question de savoir, c'est moins une question de premier amendement, sachant que la Cour suprême américaine a été assez claire, Kavanaugh, donc l'un des derniers juges, en tout cas le plus controversé, enfin l'un des plus controversés, parce que je crois qu'ils étaient tous un peu controversés aux États-Unis, a reclarifié le fait que Twitter et Facebook sont des espaces privés. Et donc là, le sujet n'est pas tellement de savoir si la liberté de parole, le droit d'expression, le Premier Amendement, mais la question de savoir si l'on doit amplifier n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Et là, effectivement, ce qui va poser une vraie question de régulation, c'est de savoir que peut-on faire. Que ne peut-on pas faire? Qui peut amplifier? Quelle est la responsabilité de l'amplificateur? Et je voulais juste me permettre revenir un peu sur ce que j'avais dit tout à l'heure au niveau de la politique, si je peux me permettre un commentaire de politique américaine. D'une certaine manière, toutes ces entreprises souhaitaient que le Sénat américain reste dans les mains des républicains, parce qu'elles ne voulaient pas, elles ont peur de la gauche américaine. AOC et toute la partie gauche du Congrès et du Sénat. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui...
Et de ce point de vue, Trump est une menace pour les républicains s'il restait dans le jeu.
Absolument.
Les entreprises américaines qui soutiennent les républicains ont aussi tendance à essayer de...
Elles considèrent que Biden est un... Si on reprend un peu le concept de Nassim Taleb, que j'aime beaucoup, d'antifragile, il y a des gens qui... explose avec le chaos, c'est d'autres qui vont exploser avec la stabilité. Aujourd'hui, on doit rentrer dans une phase de stabilité, et les entreprises américaines ont choisi Biden parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, la première des choses aux États-Unis, hein, c'est évidemment de, avant même les réseaux sociaux, c'est de régler la crise du coronavirus.
Bernard Benamou.
Oui, non. De fait, il y a plusieurs points. C'est-à-dire qu'on voit que les entreprises des technologies craignent. Et c'est là où, effectivement, il était question de changement de doctrine. Il y aura un changement de doctrine sur la régulation des contenus, sur l'antitrust.
On va y revenir.
Donc ça, c'est déjà en cours. Et pour avoir des contacts avec les responsables démocrates de l'équipe de transition de Biden, ils ne jurent désormais que par la régulation, ce qui était un mot tabou pour les équipes de Bill Clinton à l'époque où a été mis en place justement les lois à la fin des années 90 sur la non-régulation des plateformes. Et donc on voit bien qu'il y a un changement de pied. Qu'il y ait un changement de pied global, en particulier sur le Premier Amendement, ça c'est totalement inenvisageable. Ça, on sait très bien que les forces d'inertie par rapport à ça seront trop fortes. Mais sur le financement des campagnes, là encore, comme on en parlait, je crois qu'il n'y aura pas de changement parce qu'effectivement l'inertie sur ce qu'ils appellent là-bas les PAC, donc les comités d'action politique, sera trop grande. Mais sur ce qui, entre guillemets, nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire comment les choses ont pu dégénérer à ce point, en particulier justement avec les outils technologiques, là-dessus, et on l'a vu par le dévissage lors de l'annonce des résultats des résultats des sénatoriales en Géorgie, on a vu effectivement, lorsque les démocrates ont acquis la majorité, il y a eu un dévissage boursier qui depuis a été rattrapé des actions technologiques, parce qu'on sait très bien que le statu quo qui a existé jusque-là en termes de régulation, de démantèlement, oui, ne pourra pas tenir. Ah, et oui, là, les démocrates là-dessus savent qu'ils sont attendus, et effectivement là-dessus, toutes les sociétés technologiques s'attendent, s'arc-boutent. Et quelque part, ce qu'a fait Facebook, ou ce qu'ont fait Facebook, Twitter ou Google, c'est une forme, effectivement, de réaction, de panique, pour essayer, justement, là encore, de donner des gages. Straight as an arrow, you carry your intentions through the wind.
Oui, donc la situation elle est très paradoxale, parce que au moment où les réseaux sociaux affichent leur pouvoir en bannissant Trump, en même temps l'une des conséquences de cette décision, on vient de le voir, c'est que Facebook et Twitter ont perdu, je crois, en valeur boursière quelque chose comme 51 milliards de dollars. Ça a été rattrapé depuis, mais enfin, c'est quand même un signe qui dit quand même qu'on ne sait pas vers quoi on va, quoi. Il y a une grande incertitude sur la suite. Et puis ça pose un certain nombre de questions, à commencer par le statut politique de Trump au moment où cette décision est prise. Est-ce qu'il est, et là je vous pose la question à tous les trois, est-ce qu'il est un citoyen comme les autres, susceptible de contrôle s'il dérape? Ce que les réseaux sociaux ont censuré, selon leur propre discours, c'est son compte personnel et pas celui de la présidence. Donc, c'est les deux ?
Les deux.
Ah, d'accord. Alors, c'est moi qui dis les bêtises.
POTUS a été censuré.
Ah, d'accord. Alors, je dis les bêtises.
Et, il s'est exprimé récemment sur White House, c'est-à-dire sur le fil Twitter de
la Maison Blanche. Voilà, c'est ça.
De President of the United States.
C'est ça. Voilà. Donc ça dit quand même une certaine ambiguïté du statut même de la personne qui est censurée. Est-ce que c'est la personne privée ? Est-ce que c'est la personne publique ? À Saint-Mala ?
Ça pose en effet la question du régime spécifique qu'on devrait ou qu'on pourrait appliquer à des leaders d'opinion et à des hommes politiques, oui, qui ont cette capacité à drainer l'opinion publique, des idées politiques, et qui sont en plus qui prospèrent sur le ferment du modèle économique quand même des réseaux sociaux, dont on va certainement parler, qui sont essentiellement captés par l'économie de l'attention, par des mécanismes de viralité via les fonctionnalités, le design même de ces plateformes, voilà, avec les likes, les shares, les follow, etc. Donc l'ambiguïté, ce que je voulais évoquer tout à l'heure de ces réseaux sociaux-là et des plateformes en général de discussions conversationnelles comme ça, c'est la question de la création d'espaces publics, mais qui sont détenus et qui sont organisés, structurés par des entités privées. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réflexion qu'on doit avoir sur la modération ciblée spécifique de leaders d'opinion et d'hommes et de femmes politiques. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, qui est beaucoup plus fondamental, au-delà même des modèles économiques basés sur la viralité, la fragmentation, les algorithmes de recommandation, les bulles de filtre, la radicalisation et la polarisation, et donc l'éclatement aussi de ce qu'on appelle une société civile, tout simplement, se pose la question beaucoup plus démocratique de qu'est-ce qui amène ce malaise démocratique. L'alt-right, typiquement, qui a été en effet façonnée par les réseaux sociaux, elle est quand même construite par des individus issus d'une société donnée. Et donc, il ne faudrait pas confondre cause et symptôme, oui, de ce malaise démocratique. Oui, oui, oui. Et encore une fois, ce n'est pas en bannissant, en déplateformisant des idées avec lesquelles on est en malaise, avec lesquelles on est en désaccord, qu'on résout fondamentalement le problème. Mmh. Et la dernière chose, pour revenir sur le modèle, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est pas tant finalement la structuration de Twitter et de Facebook, qui sont des plateformes américaines et donc qui sont construites aussi dans un écosystème américain, mais c'est l'importation du modèle en Europe et notamment en France. Oui. Et le modèle communautariste, en particulier, sur un ferment chez nous qui est quand même très compliqué, où on avait une autre doctrine, une autre idéologie de ce qu'était l'État-nation quand même. Donc ça pose des problèmes politiques et démocratiques majeurs.
Bernard Benamou ?
Non, entièrement d'accord avec ça. De fait, effectivement, on a assisté à une forme, je dirais, pour parler clairement, d'incompétence politique par rapport à ces questions, ou de naïveté, pour reprendre le terme de Thierry Breton récemment, lorsqu'il parlait effectivement des évolutions politiques, des nouvelles lois européennes qui vont être mises en place autour de la régulation des grandes plateformes, donc le Digital Services Act, le Digital Market Act, et pour ne pas en oublier un autre, le Data Governance Act, bon, pour les plus technophiles d'entre nous. Mais de fait, on voit bien qu'on a laissé, entre guillemets, filer au profit de ces plateformes en Europe, je parle bien ici en Europe, on leur a donné effectivement accès à toutes sortes de marchés publics sans se préoccuper des conséquences à long terme que cela pouvait représenter. Et désormais, on se rend compte que, à défaut d'avoir un agenda politique, puisque c'est souvent une question que l'on pose, ont-elles un agenda politique ? Je pense sincèrement que oui. Mais à défaut de cela, on voit bien qu'elles ont un impact sur, et c'est ce que rappelait à l'instant Asma, sur la structuration de la communication et de la constitution de l'opinion publique dans nos pays, qui est tout aussi toxique que ce qu'a démontré l'affaire Cambridge Analytica aux États-Unis, où on a pu influencer à la marge les quelques pourcentages d'électeurs qui ont permis de faire basculer
l'élection en février 2016.
Et donc, ne penser que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets. Tout à l'heure, il était question effectivement de la polarisation, ce qu'on appelle la radicalisation, ce que Tariq appelait la radicalisation algorithmique. On voit bien que c'est aussi à l'œuvre, et ça a été aussi à l'œuvre pour le Brexit, ça a été à l'œuvre en Italie, c'est aussi à l'œuvre en France.
Le 13 novembre.
Absolument. On voit bien effectivement que nous ne sommes pas du tout protégés. Et qu'à l'heure actuelle, si l'on ne revient pas sur le modèle économique de ces sociétés, tout à l'heure, il était question d'économie de l'attention et effectivement le micro-profilage en anglais, donc le micro-targeting. Si on ne revient pas sur cela, et c'est ce qu'a dit très bien d'ailleurs Margaret Vestager il n'y a pas longtemps, si on ne peut pas laisser le futur de nos démocraties être décidé dans quelques conseils d'administration de sociétés américaines. Je crois qu'il est important aujourd'hui qu'au-delà même de la régulation antitrust qui sera beaucoup évoquée dans les temps à venir, on se pose, pour nous Européens, la question d'une troisième voie européenne à égale distance, j'allais dire, du crédit social chinois, cette vision dramatiquement orwellienne de la surveillance, et effectivement le laisser-faire américain en matière effectivement de société technologique qui nous a amené là où nous sommes. Et je précise effectivement que maintenant les Américains sont conscients, même ceux qui étaient les architectes avec qui on discutait,
ils commencent à être conscients du problème.
Sont conscients que les mille fleurs qu'ils ont essayé de faire éclore à l'époque ont mené à un désastre politique.
Alors, il faut pour expliquer une ou deux choses, ce qu'on appelle le modèle viral, en fait, de l'information sur les réseaux sociaux, c'est tous ces boutons retweet, hashtag, etc., qui permettent une viralité totale, et ce qui entraîne évidemment la publicité, ce qui permet aux réseaux sociaux à la fois de vivre et d'avoir une capitalisation boursière maximale. Et c'est la clé de cette stratégie, c'est effectivement la qualification d'hébergeur. Le fait que les réseaux sociaux ne soient pas qualifiés d'éditeurs, mais d'hébergeurs, leur donne une marge de manœuvre maximale pour héberger effectivement n'importe qui et donc pour aider à la viralisation du maximum d'informations.
Plus exactement, ils ne leur donnent aucune responsabilité.
Ne reconnaît aucune responsabilité.
Et c'est ce qui leur donne la latitude de modérer ou pas, ou censurer selon le point de vue. Et c'est ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé avec Twitter initialement, et puis la censure ou en tout cas le shutdown des comptes de Trump.
Le bannissement.
Le bannissement.
Pour rester dans Shakespeare.
Le bannissement, l'ostracisation de Trump va faire une jurisprudence. Parce que tout d'un coup, on va remettre le débat sur le statut, aujourd'hui qui est protégé par la fameuse, donc je l'évoquais, section 230. Mais simplement, il y a un point très important par rapport à nous, ce qui se passe ici en Europe, chez nous.
Oui.
L'arrivée, et je suis parfaitement d'accord avec Bernard.
Vous parliez de la communautarisation qui serait encouragée par les réseaux sociaux, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Le communautarisme. C'est-à-dire que, en fait, le fonctionnement des réseaux sociaux... sur leur modèle économique, le fait que les algorithmes ne nous poussent que les opinions avec lesquelles on serait susceptible d'être d'accord. Alors, cela dit, il y a quand même des nuances à apporter. Google va plutôt diriger des publicités ou des éléments d'information qui vont plutôt être de l'ordre du plaisir. Là où Facebook, les algorithmes de Facebook sont davantage sur, en effet, la conflictualité et la création comme ça d'antagonisme. Mais cela dit, en effet, on a des enfermements sur des bulles de filtres où on crée des communautés. Et typiquement, quand on applique ça à la vraie vie, je sais pas, moi, une personne qui est plutôt complètement discriminée dans la vraie vie, qui ne se sent pas appartenir à une communauté, à une nation, va pouvoir, en effet, se reposer sur une communauté virtuelle qui, elle, va la valoriser, la reconnaître, etc. Et donc, on a un éclatement de la société civile sur des fragments de communautés algorithmisées.
On avait vu ça avec le mouvement des Gilets jaunes dans cette émission, on avait vu comment ça avait fonctionné.
Absolument. Les Gilets jaunes sont un symptôme parfait de la création ou les révolutions arabes, et qui ne permettent pas derrière de créer des vraies propositions politiques.
Je voulais juste dire quelques points. Déjà, ce dont parle Asma, je pense, c'est ce que les États-Unis appellent maintenant le hashtag activisme. C'est-à-dire que c'est devenu une nouvelle forme de lutte politique. C'est-à-dire qu'on construit, que ce soit Black Lives Matter, Storm the Capitol, etc., etc. Donc c'est effectivement une nouvelle forme politique. Mais pour revenir sur la question du pouvoir des big tech, je pense qu'il faut rappeler plusieurs choses. La première, c'est que nous sommes face à une idéologie qui s'inspire de l'idéologie libertarienne d'Ayn Rand, d'un mélange de ce qui a été la cybernétique de Norbert Wiener, ce que j'appelle aujourd'hui les suprémacistes numériques, c'est-à-dire des gens qui pensent que le monde est une équation mathématique qu'il faut optimiser. Et malheureusement, lorsqu'on souhaite optimiser la démocratie, qui est imparfaite, le fait que chacun d'entre nous ait sa propre liberté de penser, c'est justement peut-être la forme la plus imparfaite d'organisation du monde, doit être changée. Donc il y a véritablement, il faut voir qu'au-delà de ça, ce n'est pas uniquement un combat de technologie, ce n'est pas uniquement une question de profit, mais une véritable vision du monde. Et d'une certaine manière, quand on pousse cette idée de mettre de l'intelligence artificielle partout, ça veut dire également la fin de la pensée. Il y a un auteur qui a écrit quelque chose de très très intéressant et qui disait que finalement le 19e siècle s'est attaché à détruire les savoir-faire avec l'industrialisation, le 20e siècle a détruit le savoir-être ensemble, et le 21e siècle s'affaire à la destruction du savoir-penser. Et moi, ce qui me gêne...
Qui a dit ça, pardon?
Je vais vous retrouver. C'est un livre qui s'appelle Internet et la bougie. Le nom de l'auteur m'échappe, mais c'est un musicien de jazz merveilleux et qui a écrit un livre, justement. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur plein de choses, mais au contraire, j'aime beaucoup être exposé à des choses qui ne me plaisent pas, ce qui est d'ailleurs quasiment plus le cas sur Internet. Mais l'autre point qui est important et qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a laissé faire et en Europe, c'est qu'on a laissé ces plateformes s'installer dans notre intimité. Jusqu'à maintenant, nous avions des services, quand vous êtes dans des services commerciaux, que vous achetiez quelque chose, vous savez que vous êtes dans un service commercial. Mais dès lors qu'on a inventé le smartphone et que ce smartphone a collecté nos données personnelles, notre environnement personnel, nos photos personnelles, nos contacts, nos messages, tout notre calendrier, nos données de médicales, on a complètement changé de monde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est en train de détruire de l'intérieur notre intimité. Et d'une certaine manière, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est l'avènement d'une forme de dépression collective qui a été suscitée par les réseaux sociaux, qui a été amplifiée algorithmiquement. Et donc, la régulation ne peut pas être uniquement sur une question évidemment politique, ne peut pas être uniquement sur une question financière, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, on est dans un système qui épuise notre psyché, qui épuise notre intimité, qui nous rend totalement fous, et qu'il va falloir arrêter la machine. Et je pense que le rôle de l'Europe, c'est de bien séparer l'espace privé, de le sanctuariser et de ralentir la vitesse dans laquelle on va, puisqu'on est aujourd'hui dans une espèce de fuite en avant. On espère, on ne sait pas vraiment où on va, mais on se dit que plus il y aura de technologie, plus ce sera mieux. Mais aujourd'hui, de manière concrète, plus il y a de technologie, plus les gens ne se parlent plus. Sheryl Tuckle a écrit un livre remarquable qui s'appelle Alone Together, qui définit vraiment la situation dans laquelle on est, et encore d'autant plus vrai aujourd'hui avec le confinement. Mais également une société où on ne se parle plus, on ne pense plus, et on est épuisé intellectuellement, mentalement et moralement. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, au-delà de la régulation purement de la régulation des contenus, il va falloir aussi s'assurer que ces outils ne soient pas toxiques pour nos cerveaux.
Bernard Melamou.
Oui, l'un des points que recommande l'excellent article que je recommande à vos auditeurs du Guardian qui est paru hier sur justement l'éviction de Trump, la déplateformisation de Trump, c'est que les chercheurs puissent faire leur travail par rapport à ces plateformes. Et je précise que de nombreux travaux ont été soit bloqués, soit poursuivis en justice, en particulier pour Facebook, parce que Facebook ne voulait pas effectivement que l'on puisse analyser son fonctionnement. Des rapports internes de Facebook ont même été produits sur la polarisation dont nous parlions tout à l'heure. Ces rapports ont été censurés en interne. C'est ce que relatait le Wall Street Journal il y a quelques mois. Donc je dirais que l'un des axes de travail pour une régulation des plateformes, c'est aussi d'ouvrir un travail indépendant d'analyse, d'audit du fonctionnement, d'audit du code et des algorithmes. Un point important qui a été évoqué tout à l'heure, vous parliez effectivement des fonctions de viralité sur le share, le like, etc. Mm-hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les logiciels, les algorithmes qui font fonctionner ces plateformes incitent à recommander des contenus le plus radicaux possible. Ce que l'excellente sociologue turco-américaine Zeynep Tufekci a résumé en disant, je pense que YouTube, avec son plus d'un milliard d'abonnés et d'utilisateurs, est devenu le principal outil de radicalisation du 21e siècle.
Oui, parce que
plus on recommande des contenus polarisants, plus les gens restent dessus longtemps.
Plus les gens sont actifs, plus les annonceurs sont actifs.
C'est un anglicisme. Je dirais, l'incitation à l'échange à partir d'un contenu, c'est le baromètre absolu pour ces plateformes. Ouais. Et donc, elles auront tendance à propager et à diffuser davantage des propos polarisants, racistes, extrémistes, que des propos modérés, qui seront vécus comme étant effectivement des propos peu intéressants de manière générale pour la plateforme. C'est ce modèle toxique, non pas complice des idéologies extrémistes, mais d'une certaine manière où il y a une convergence d'intérêts toxiques qu'il faudra remettre en cause dans la
société.
Alors sur la question de la régulation, en Europe, on a quand même eu le Digital Service Act qui a été présenté en fin d'année. Et l'arrivée de Thierry Breton à la Commission européenne, je pense, commence en tout cas à impulser un changement, en tout cas de doctrine, ou en tout cas de réveil sur ces enjeux-là. Et typiquement, le DSC envisage un certain nombre de propositions qui sont hyper intéressantes du point de vue de la régulation, notamment sur la question de la transparence, de la modération, de la transparence algorithmique, mais aussi des données qui sont captées, sur la question des recours, du droit aussi de réponse. Et enfin, et ce qui me semble très important sur la question de la régulation, c'est on s'est pendant très longtemps enfermé, de mon point de vue en tout cas, sur le dialogue ou le diptyque plateforme État. Là où on a beaucoup oublié l'utilisateur qu'évoquait Tariq. Utilisateur qui, par les modèles économiques, nous tous en fait, sommes envisagés comme le produit et non pas comme les acteurs de ces plateformes-là. Et là où le DSC peut être assez intéressant et où faudrait aller encore peut-être un cran plus loin, c'est de faire en sorte que le débat public, qui donc nous appartient à tous en tant que citoyens et non pas simplement en tant que user ou produit gratuit, parce que c'est aussi ça derrière, c'est la gratuité de ces plateformes-là, nous permettent tous ensemble de modérer ces contenus-là. Et la question du modèle économique, de la viralité des contenus licites ou illicites, mais en tout cas qui sont comme ça des poudrières démocratiques, ça serait en fait de pousser par notre modération à nous tous des contenus qui soient peut-être un peu plus sobres. Et ça passe aussi donc par la question des contre-pouvoirs. Typiquement, c'est nous tous, mais c'est aussi les associations, les experts, etc., qui pourraient modérer. Je termine juste parce que aujourd'hui, il y a une défiance, il y a une méfiance vis-à-vis aussi du politique et de l'État central. Oui. Et donc, faire du fact-checking, de la modération, du contre-discours officiel ne marche plus. Parce que les réseaux sociaux, en fait, ont horizontalisé la parole. Tout le monde peut parler. Et donc, arguments d'autorité ne marchent plus.
Et ça ne va pas disparaître avec Trump. Et un des problèmes qui se pose, et je voudrais qu'on fasse la dernière partie de l'émission un peu là-dessus, c'est ce qui se profile. Le pouvoir des réseaux sociaux ne commence pas avec cette histoire. En 2018, il y avait, le New York Times avait baptisé, est appelé Moment Frankenstein, le moment où Mark Zuckerberg s'était engagé à assurer l'intégrité des élections, je cite, partout dans le monde, comme si Facebook était devenu l'instance de régulation démocratique planétaire, et sans tenir compte du fait que plus d'une fois, Facebook a objectivement encouragé des émeutes violentes qui ont fait des morts en Inde et ailleurs, bien plus grave que ce qui s'est passé au Capitole d'ailleurs. Donc, ce qui est en train de se dessiner, de s'esquisser à peine depuis le bannissement de Trump et les discours qu'on entend, c'est un peu le contraire de ça, une sorte de nouveau les fake news, c'est l'apanage des affreux, et nous, de notre côté, on va rétablir la vérité, la réalité dans toute sa splendeur. Le Washington Post, par exemple, dans un article d'hier ou aujourd'hui, je crois, a annoncé qu'il y avait une baisse drastique des fake news aux États-Unis de 50% depuis le bannissement de Trump, ce qui est quand même très douteux, surtout de la part du Washington Post qui a écrit n'importe quoi sur la France, notamment pendant des semaines. Donc, les fake news s'arrêtent là où commence, en quelque sorte, je voudrais pas dire la bien-pensance parce que c'est un terme connoté, mais quelque chose comme ça, on a l'impression que c'est un crime.
Mais en fait, ces techniques ont été utilisées par Cambridge Analytica, mais qui ont été essentiellement, d'ailleurs, été très efficaces pendant le Brexit, parce que ce qui est incroyable pendant l'élection du Brexit, pour beaucoup d'Anglais, c'était en fait un référendum sur l'entrée d'un million de plusieurs dizaines de millions de Turcs sur le territoire, parce que ce sont les publicités qu'ils ont vues, des publicités que d'ailleurs le régulateur des élections n'a jamais vues. Facebook a dit d'ailleurs qu'il n'était pas capable de savoir qui les avait payés, comment. Donc on a des plateformes qui vous expliquent qu'ils sont capables de tout contrôler, mais quand il s'agit de retrouver les gens qui ont fait les publicités les plus nauséabondes et les plus immondes pendant le Brexit, là c'était compliqué de retrouver l'origine. Donc si vous voulez, on est à un moment où ces plateformes ne sont pas en mesure déjà de se réguler. Elles n'ont pas en interne. Il faut savoir que Mark Zuckerberg a beaucoup de gens qui sont très pro-Trump dans son environnement personnel. Il faut savoir que la moitié de la Silicon Valley est plutôt pro-Trump. Le fondateur, le créateur de WhatsApp était un soutien très important. Palmer Luckey, Oculus, donc une filiale de Facebook qui est partie depuis, a monté, a dit à Trump, nous allons vous aider avec toute la technologie américaine pour construire le mur électronique. Donc en fait, on a une vision assez toxique aux États-Unis. Et le problème qu'on a en Europe, et j'aimerais rebondir là-dessus, c'est qu'on doit proposer une autre vision. Et pour moi, la chose qui permet de mieux saisir ce que l'on devrait faire, c'est, prenons le cas de la nourriture. Aujourd'hui, le poulet lavé au chlore, évidemment on le lave au chlore parce qu'il est impropre à la consommation de toute façon et donc il faut le désinfecter. Ce sont des choses qui sont interdites en Europe. En Europe, on a décidé d'avoir un environnement, un statut, une vision du monde qui est différente. La qualité de la nourriture, la qualité des infrastructures, c'est un endroit où on vit bien. Et curieusement, sur le numérique, au lieu de mettre en œuvre et mettre en application cette vision du monde, donc de construire un Internet apaisé où on a des outils qui soient neutres, qui ne soient pas centralisés, parce que c'est un des vrais problèmes, c'est la centralisation du pouvoir et des outils, le fait qu'on est passé de ce qu'on appelait l'Internet ouvert à l'Internet boîte noire, c'est-à-dire que finalement, pourquoi telle application est acceptée sur l'App Store et pas celle-ci? Pourquoi telle information est mise en avant et pas celle-ci? Personne ne sait, et certainement pas le gouvernement français.
Mais je voudrais finir sur qu'on finisse l'émission sur ce qui risque de se produire. C'est la tendance qui commence à monter. Parce qu'on se rend compte que Trump, une fois de la Maison-Blanche, en fait, n'aura que l'embarras du choix pour s'exprimer, à commencer par le fait de créer sa propre chaîne.
C'est pas certain. On va voir.
Mais ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas le seul endroit où les Américains vont devoir purger, en quelque sorte. Kurt Schilling, le sportif, prétend que son soutien à Trump lui coûte son assurance santé, par exemple. L'assurance santé, il aurait été banni de l'assurance AIG, et lui et sa famille, pour avoir soutenu Trump. On a le sentiment qu'il est en train de se mettre en place une sorte de système vertueux, en apparence en tout cas, qui ne va pas empêcher la toxicité, qui ne va pas empêcher nécessairement les fake news de circuler, mais qui va ressembler sous une forme occidentalisée à quelque chose comme le système chinois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est moi qui délire, Bernard Benamou ?
Qu'il y ait un risque, et on le voit bien, qu'il y ait un risque que ces plateformes nous conduisent au modèle du crédit social, qui est effectivement... une vision de surveillance permanente, de notation permanente. Oui. Or, que font ces plateformes si ce n'est établir justement aussi une notation des contenus et des personnes? Et c'est ce qu'a très bien décrit l'extraordinaire ouvrage de Shoshana Zuboff, professeur Harvard, sur l'âge du capitalisme de surveillance. On voit bien qu'il y a une convergence dérangeante Je rappellerai par exemple que les citoyens de Toronto ont voulu arrêter net l'expérience de ville intelligente de Google,
oui,
parce que justement ça ressemblait de façon effroyable au crédit social chinois. Oui. Et donc il y a bien effectivement une convergence pour des motifs qui ne sont pas les mêmes. D'un côté c'est évidemment le pouvoir du Parti communiste chinois, et de l'autre côté c'est le pouvoir de ces plateformes, mais qui in fine conduisent à la même chose. Donc oui, cette troisième voie européenne qui serait à égale distance, là où je ne peux pas être totalement d'accord, je pense que les usagers ne pourront pas à eux seuls déterminer l'évolution de ces modèles économiques, il faudra une intervention des régulateurs au sens le plus large, parce que on voit bien que si nous ne construisons pas effectivement une troisième voie, une alternative, ce qu'a très bien dit Charles Michel, le président du Conseil européen, en disant il y a une place pour cette troisième voie européenne, nous serons d'une part vassalisés économiquement, vassalisés politiquement, et nous n'aurons plus du tout les moyens de promouvoir, de défendre ces principes et valeurs qui ont fondé l'Union européenne et nos démocraties au sens large.
T'as écrit très vite et puis ensuite t'as Saint Malo.
Le combat, en fait, la déplateformisation de Trump pose également un problème de souveraineté numérique, parce qu'aujourd'hui on peut déplateformiser le président des États-Unis, ouais, mais on peut déplateformiser le ministère de l'Intérieur, les services de santé de l'État. Et donc ce qui est curieux, c'est que je pense que on est face à un gouvernement qui a décidé de mettre les données des Français chez ces grandes plateformes, et qui découvre aujourd'hui qu'en fait, du jour au lendemain, sur un simple désaccord ou sur un sujet qui n'est d'ailleurs pas forcément expliqué par ces plateformes, on peut être déconnecté. Et va se poser la question immédiatement pour l'Europe, et avant tout pour la France, du plan B. Qu'est-ce qui se passe quand toutes ces plateformes ont ce pouvoir, peuvent nous débrancher? Quelle est l'alternative? Et donc là, il y a un vrai sujet aussi qui est de faire émerger en France des plateformes alternatives, ne serait-ce que pour héberger nos données de santé, toutes les informations qui sont nécessaires pour notre vie numérique quotidienne.
Pour répondre simplement à plus précisément à votre question, moi ce qui me fait un tout petit peu peur dans justement le bannissement de Trump, mais aussi de tout son écosystème, c'est-à-dire toutes les plateformes aussi connexes d'alt-right, type Parleur, etc., c'est qu'en réalité, en les bannissant, on ne les annule pas, on ne les fait pas disparaître, elles vont aller ailleurs. Et ce qui est très très embêtant, c'est qu'elles vont aller dans ce qu'on appelle le dark social. Et donc, ce qui est très embêtant, et là où on manque réellement de tactique et de stratégie politique, et donc de vision, c'est ce dont on manque essentiellement, c'est qu'en fait, en enlevant de notre vue l'adversaire, on ne sait plus avoir les coups d'avance nécessaires. Et en réalité, ils vont du coup essaimé par capillarité dans la société.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec la réalisation Luc-Jean Reynaud, et à la technique Andreas Jaffré, Jean-François Georges, Louison Soulignac, Christophe Michou, Laurent César, Dominique Allard, Francesca Fossati et Wojciech Moiret.